La religion n'a-t-elle pas, depuis des millénaires, déposé un brevet sur la création? La question du Tleilax. Parole de Muad'Dib. L'air de Tleilax était cristallin, tendu par un silence dû pour une part au froid du matin et pour l'autre à une sensation de présence monstrueuse aux aguets, comme si la vie vorace et impatiente de la cité de Bandalong, n'attendait pour se déchaîner que son signal personnel. Le Mahai, Tilvis Vaf, maître des maîtres, affectionnait cette heure plus qu'aucune autre de la journée. Vue de cette fenêtre ouverte, la cité lui appartenait en entier et ne revivrait que sur son ordre. C'est du moins ce qu'il se disait. La présence tapie qu'il sentait sur Bandalong était sa manière d'appréhender les réalités susceptibles de naître de ce puissant réservoir d'incubation vivante qu'était la civilisation du Tleilax, née en ces lieux avant d'essaimer sa puissance jusqu'aux plus lointaines étoiles. Il avait attendu patiemment, durant des millénaires, son peuple. Et il y avait lieu, pensait Vaf, de savourer cet instant. À travers toute la sombre époque du prophète Leto II, qui n'était pas l'empereur Dieu, mais le messager de Dieu, à travers la grande famine et la dispersion, à travers chaque humiliante défaite infligée par des créatures inférieures, à travers toutes ces pénibles épreuves, les Tleilaxu avaient patiemment rassemblé leurs forces en vue de cet instant. Nous sommes arrivés à notre carrefour du temps, ô prophète. Il voyait la cité qui s'étendait sous sa fenêtre comme un symbole, un puissant repère sur la page des ambitions Tleilaxu. D'autres planètes du Tleilax, d'autres grandes cités reliées, interdépendantes, soumises à son dieu et à sa cité centrale, attendaient le signal que tous savaient imminent. Les forces liguées des danseurs visages et des machèques avaient condensé leur pouvoir en préparation du grand bond cosmique. Des millénaires d'attente étaient sur le point de prendre fin. Vaf appelait cela le long commencement. Oui. Il hochait intérieurement la tête en contemplant la cité tapie. Depuis la conception du plan, depuis le noyau d'idées infimes qui lui avait donné naissance, les dirigeants du Bene Tleilax avaient parfaitement compris les dangers d'une action si diluée dans le temps, si contournée, si subtile. Ils savaient qu'il allait leur falloir affronter maintes et maintes fois le quasi-désastre, la défaite sanglante, la soumission et les humiliations. Tout cela et bien davantage avait contribué à l'édification d'une image particulière du Bene Tleilax. Grâce à des millénaires de faux-semblants, ils avaient créé un mythe. Les vils, les détestables, les sales Tleilaxu, les stupides Tleilaxu, les prévisibles Tleilaxu, les impétueux Tleilaxu. Même les protégés du prophète s'étaient laissés séduire par ce mythe. Dans cette même pièce, une truitesse captive avait crié à un maître Tleilaxu « Une trop longue imposture finit par se transformer en réalité. Vous êtes devenu vil !» Elle avait donc été mise à mort et le prophète n'avait rien fait. Comme tous ces peuples étrangers comprenaient mal le sens de la réserve Tleilaxu. Impétueux, ils changeraient peut-être d'avis le jour où le Bene Tleilax leur montrerait combien de millénaires il était capable d'attendre pour établir sa suprématie. Spannungsbogen. Vaf retourna l'ancien mot sur sa langue. L'écartement de l'arc. La force avec laquelle on tendait la corde en arrière avant de décocher la flèche. Voilà une flèche qui frapperait fort.
Les machèques ont su attendre plus longtemps que quiconque,
murmura Vaf. Il avait osé prononcer ce mot à haute voix pour lui seul, ici, dans sa tour sanctuaire. Machèque. Les toitures en contrebas scintillaient tandis que le soleil pointait à l'horizon. On entendait les premiers bruits de l'activité du matin. Les senteurs douces amères de la vie Tleilaxu flottèrent jusqu'à sa fenêtre, apportées par la brise. Il inhala une bonne gorgée d'air et referma la croisée. Il se sentait ragaillardi par ces quelques instants de méditation solitaire. Tournant le dos à la fenêtre, il revêtit la robe d'honneur de kilat blanc, devant laquelle tous les domelles étaient conditionnés à se prosterner. Le vêtement recouvrait entièrement son corps trapu et lui donnait l'impression distincte d'être protégé par une armure. L'armure de Dieu.
« Nous sommes le peuple du Yagiste »,
avait-il rappelé seulement la veille à ses conseillers.
Tout le reste est dans les limbes. Nous avons nourri le mythe de notre faiblesse et de nos maléfices pendant des millénaires dans un unique dessein. Même le Bene Gesserit y croit.
Siégeant dans la profonde sagra sans fenêtre, à l'abri d'une barrière de non-espace, les neuf conseillers avaient souri silencieusement pour approuver ses paroles. Par le jugement du Goufran, ils le savaient déjà. Le stade auquel les Tleilaxu déterminaient leur propre destinée avait toujours été celui du Kael, avec son droit de Goufran. Il était dans l'ordre des choses que même Vaf, le plus puissant de tous les Tleilaxu, ne put quitter son monde sans être obligé, pour y être réaccepté, de s'humilier dans le Goufran, en demandant pardon d'avoir été au contact des inimaginables péchés étrangers. Côtoyer des Powinda pouvait souiller irrémédiablement les plus grands. Les Kassadars qui faisaient la police aux confins du Tleilax et veillaient sur les Selamlik des femmes avaient raison de le soupçonner systématiquement. Vaf appartenait certes au Kael, mais il devait le prouver chaque fois qu'il revenait au cœur patrie après l'avoir quitté, et à plus forte raison chaque fois qu'il entrait au Selamlik pour y distribuer son sperme. Vaf se dirigea vers son grand miroir pour y inspecter sa tenue. Aux yeux des Powinda, il le savait, il apparaissait comme un gnome de moins d'1,50 m. Ses yeux, ses cheveux, sa peau formaient un camaïeu de gris qui servait de cadre à un visage ovale fendu d'une bouche minuscule où brillait une ligne de dents pointues. Un danseur visage aurait pu imiter ses traits sur l'ordre d'un machek, mais ni les machèques ni les Kassadars ne se seraient laissés abuser. Seuls les Powinda auraient été dupés. À l'exception du Bene Gesserit. Cette pensée lui fit faire la grimace. Mais les sorcières ne perdaient rien pour attendre. Elles n'avaient pas encore vu les nouveaux danseurs visages. Aucun peuple n'a su maîtriser le langage génétique aussi bien que le Bene Tleilax, se dit-il pour se rassurer. Nous l'appelons à juste titre le langage de Dieu, car c'est Dieu lui-même qui nous a fait don de ce grand pouvoir. Vaf alla se placer devant la porte pour attendre la sonnerie du matin. Il était impossible, se disait-il, de décrire la richesse des émotions auxquelles il était en proie en ce moment. Le temps se dépliait devant lui. Il ne demandait pas pourquoi le vrai message du prophète n'avait été entendu que par le Bene Tleilax. C'était la volonté de Dieu, et en cela, le prophète n'avait été que le bras de Dieu. Il avait droit au respect en tant que messager de la volonté divine. Tu as préparé les autres à notre intention, ô prophète. Comme ce Gola sur Gameux, il arrivait à point. À lui seul, il valait toute cette longue attente. La sonnerie du matin retentit, Vaf sortit dans le couloir en même temps que plusieurs autres silhouettes en robe blanche, et se dirigea vers le balcon de l'Est pour saluer le soleil levant. En tant que Mahaï et Abdul de son peuple, il pouvait à présent s'identifier à tous les Tleilaxu. Nous sommes les légalistes du charia, les derniers de notre espèce dans l'univers. Il n'aurait pu révéler une pensée si secrète en aucun autre lieu que les cellules privées de ses frères Malik. Mais il savait que c'était un sentiment partagé par tous ceux qui l'entouraient maintenant. Les conséquences de cette manière de penser étaient visibles aussi bien sur le visage des Machèques que sur celui des Domels et des danseurs polymorphes. Le paradoxe de la parenté et du sentiment d'identité sociale qui imprégnait tout le Kael, du plus grand Machèque au plus humble Domel, n'était pas un paradoxe aux yeux de Vaf. Nous œuvrons pour le même Dieu. Un danseur visage ayant revêtu l'apparence d'un Domel s'était incliné cérémonieusement avant d'ouvrir les grandes portes du balcon. Vaf, émergeant dans la lumière du soleil au milieu de ses compagnons, avait souri en le reconnaissant. Un Domel, tiens donc. C'était une petite plaisanterie en famille, mais on ne pouvait pas dire que les danseurs visages faisaient partie de la famille. C'était des assemblages, des instruments. De même que ce Gola de Gameux était un instrument. Et ils étaient conçus grâce au langage de Dieu que les Machèques étaient seuls à parler. En même temps que tous les autres qui l'entouraient, Vaf se prosterna devant le soleil. Puis il lança le cri de l'Abdul, qu'il entendit répercuter par d'innombrables voix jusqu'aux plus lointaines portes de la cité.
Le soleil n'est pas Dieu.
Non, le soleil n'était pas Dieu. Le soleil n'était qu'un symbole de la puissance et de la miséricorde infinie de Dieu. Encore un assemblage, encore un instrument. Purifié qu'il était par son passage au Goufran de la veille, ragaillardi par ce rituel du matin, Vaf pouvait maintenant songer sereinement à son dernier voyage en territoire Powinda et au retour récent qui avait rendu le Goufran nécessaire. Les autres fidèles s'écartèrent pour le laisser passer lorsqu'il retourna dans le couloir et se rendit à l'entrée du jardin central où il avait demandé à ses conseillers de le retrouver.
Cette incursion chez les Powinda a été positive, se dit-il.
Chaque fois qu'il quittait les mondes intérieurs du Bene Tleilax, Vaf se considérait comme faisant partie d'un Lashkar, une expédition de guerre lancée à la poursuite de cette vengeance ultime que son peuple appelait secrètement Bodal. Toujours avec une majuscule, toujours la première chose réaffirmée devant le Kehl ou à l'occasion du Goufran. Et il était réjouissant de penser que ce récent Lashkar avait été une exquise réussite. Lorsqu'il pénétra dans le jardin central, le lieu était déjà inondé de soleil grâce aux réflecteurs prismatiques installés sur les toitures voisines. Un jet d'eau miniature jouait une fugue visuelle au centre d'un cercle de gravier. Sur le côté, délimité par une petite barrière blanche, se trouvait une étendue d'herbes rases, suffisamment proche du jet d'eau pour que l'air soit imprégné de fraîcheur, mais pas assez pour que le bruit puisse troubler une conversation tenue à voix basse. Tout autour de la pelouse étaient disposés 10 petits bancs en matière plastique ancienne, 9 d'entre eux formant un arc de cercle très large, face au 10e légèrement décalé. Vaf s'arrêta devant la barrière blanche pour regarder autour de lui. Il se demandait pourquoi il éprouvait un plaisir plus intense que d'habitude à se trouver en ces lieux. Le bleu foncé des bancs était dans la masse du matériau. Des siècles d'utilisation avaient creusé les angles des accoudoirs et les endroits où d'innombrables et augustes postérieurs avaient pris place. Mais la couleur était exactement la même partout. Il s'assit face aux 9 conseillers, rassemblant dans sa tête les mots qu'il allait devoir utiliser. Ce document qu'il ramenait de son dernier Lashkar, et qui constituait en fait la raison première du voyage, ne pouvait pas tomber mieux à point en vérité. De par son titre et son contenu, il avait la valeur d'un puissant message adressé au Tleilaxu.